Vous allez continuer?
Ça dépend pas de moi, ça dépend si je trouve un peu... ou si le producteur du film est content et qu'il a envie de continuer, parce que c'est des films qui ne coûtent pas cher, entre 500 et 600 000 euros. Celui-là coûte cher uniquement parce qu'il a duré 4 ans et qu'il fallait, même s'il y a peu de gens, il fallait payer les gens, un peu de machines, des trucs et comme ça. Et sur 4 ans, ça finit par faire beaucoup.
Ça dépend. Ça dépend aussi de votre envie, à vous.
Ah oui, mais les salons...
Elle est intacte ?
Ben, y a pas grosse différence entre envie et nécessité.
Et donc vous avez, vous ressentez la nécessité de continuer de tourner ?
Ben, je sais faire que ça.
Donc... adieu au langage, mais pas adieu au cinéma.
Non, parce que dans le cinéma, qu'il soit muet ou parlant, ça, je vous rappelle que la Nouvelle Vague, quand on a, pour moi, découvert le cinéma, est très tard, pas comme le Louche à 3 ans, quand j'ai vu un vieux Mickey, si vous voulez, mais vers 20 ans, ne sachant pas trop quoi faire avec des bacs moyens, des trucs, ayant quitté ma famille, parce qu'elle voyait que je ne pouvais pas non plus devenir un docteur ou un ingénieur ou que sais-je, ou comme ça. Et donc, qu'à la Cinémathèque française ou dans certains ciné-clubs, à la Cinémathèque française quand même, on a vu un musée qui n'existait pas ailleurs. Ma mère connaissait le musée du Louvre ou les trucs, mais elle connaissait pas la Cinémathèque française. Elle savait pas ce que c'était. Elle savait pas bien qu'elle n'ait vu que des films muets, elle ne savait pas qu'il y avait des vieux films muets qui étaient aussi beaux que les livres qu'elle disait. Donc c'était un peu comme un explorateur l'autre fois découvrant un nouveau peuple, un peuple de fantômes, oui, mais et un nouveau continent. Et on voyait des films modernes à l'époque, les films qui sortaient petit à petit, mais il n'y avait aucune différence entre eux et un ancien film de Griffith pour parler de le metteur en scène célèbre. C'était le même monde. On découvrait que le muet parlait beaucoup mieux que le parlant. Ce qu'on trouvait des metteurs en scène comme Chaplin et comme qui a mis beaucoup de temps à revenir au parlant.
Vous-même, vous êtes né juste avant l'avènement du parlant.
Je suis né en même temps. Et du reste, j'ai peu parlé.
C'est lié.
Sûrement aujourd'hui, c'est peu lié. Pendant des années, j'ai parlé très tard. J'ai parlé très tard, et puis à des moments, à 15-16 ans, après avoir lu une fois un bouquin de philosophie de Brice Barin, qui s'appelait « Remarques sur la nature et les fonctions du langage », j'ai quasiment cessé de parler comme un, je sais pas, volontairement ou pas, comme un autiste, comme ça.
Ça a duré longtemps ?
Un an ou deux, ma mère s'est inquiétée aussi.
Ah oui ?
Et je lui ai dit « Non, c'est de la philosophie, il faut pas t'inquiéter, tout ça ».
Aujourd'hui, Jean-Luc Godard, chacun peut avoir sa cinémathèque chez soi.
Oui.
C'est quand même une révolution. Est-ce que vous y... C'est une évolution.
Évolution, oui. Ouais. Ah ben oui.
On peut avoir le film qu'on a envie de voir, on peut quasiment le voir dans le quart d'heure. Hein.
C'est plus un film, c'est un DVD sur un petit écran, ou même un écran de plus en plus grand. Mais
ça reste le film.
Mais on ne fera jamais des écrans qui feront le mur du fond, sauf chez des gens très riches et encore, simplement parce qu'à ce moment-là, il faudrait que l'État aide à construire des maisons, des appartements plus grands que ceux qui construisent. Donc on ne peut pas. Donc on voit ça. Il y a quelque chose qui passe. Il passe, j'en vois. Mais il y a quelque chose qui passe. J'aime bien historiquement. je vois un vieux Lino Ventura, je le trouve toujours aussi abominable, mais ça me gêne moins.
Qu'est-ce qui est abominable, le film ou Ventura?
Lino Ventura.
Ah bon, il est abominable.
Le film aussi, il n'a jamais fait le bon film.
Vous aimiez bien De Funès avant?
Non, mais je le respecte parce qu'il me fait rire comme tout le monde.
Ah,
je,
il vous fait rire donc.
Je suis pas
très important.
Mais oui, mais je ne suis pas. Je suis normal, si vous voulez.
Ben oui, c'est, tout à l'heure, je vous demandais ce que vous aimiez dans la culture populaire d'aujourd'hui. Donc, on est un tout petit peu renseigné. On est un tout petit peu renseigné.
Oui, vous pouvez... il n'a pas fait les... Pour moi, il n'a pas pu faire les films qui étaient à la mesure de son talent.
Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer
avec? Ah ben, je ne sais pas. Mais pas jouer, faire les films, ou jouer, ou d'autres. Et comme ça, j'aime beaucoup Darry Cole, par exemple. Il n'y a que Sacha Guitry qui lui a donné dans un ou deux films. Voilà. Mais il n'a, quand Darry Cole fait le triporteur, le film ne vaut pas la petite séquence qu'il joue dans Trois font la paire.
De Sacha Guitry.
Oui.
Donc, je reviens à ma question. La cinémathèque que vous pouvez avoir, vous,
c'est pas une cinémathèque.
Chez vous, ou non. Une DVD-thèque, ou des cassettes, ou
voilà,
des DVD, etc. Vous y retournez souvent? Vous revisionnez souvent des choses de que vous avez envie de revoir?
Non, c'est pas envie de revoir, c'est envie de voir ce qui se fait, ou ce qui ne se fait plus. Pendant que je tournais, là, les 4 ans, j'ai... De temps en temps, pendant le tournage, je vais voir, pour voir soit ce qu'il faut, soit quelque chose qui s'était fait, et je peux non pas essayer de le refaire, mais aller dans des endroits comme ça, soit quelque chose qui ne se fait plus, qui ne faut surtout pas faire, donc, et qui m'encourage. Si je vois un violino Ventura, je me dis, tiens, ben, au moins, je ne fais pas ça.
Il y a des citations aussi dans vos films. C'est Métropolis hein, qu'on voit dans oui. Adieu au langage, et puis les Cheyennes oui. de John Ford dans Film Socialisme.
Oui, mais si vous voyez Métropolis, comment est-ce qu'elle s'appelait, Brigitte Elm, dans Métropolis.
De Fritz Lang.
Et quelques... Mais c'est la seule fois, alors là, de toute l'histoire du cinéma et d'aujourd'hui, je m'en glorifie pas. Je me dis, je devrais pas être seul à faire, non pas exactement ça, mais quelque chose comme ça. C'est qu'on voit un personnage, bon, qui n'est pas un personnage pour moi, la jeune femme qui est une figure, une entité que j'ai essayé de mettre nue, non pas pour faire du sexe, mais pour la voir comme un animal, qu'il n'y ait pas de différence. Les animaux, on les voit nus. Ils ne sont pas gênés, et nous non plus. C'est Derrida qui disait ça en face de son chat. Eh bien là, elle est là, elle jette un coup d'œil à la télévision, ce qu'on voit dans des centaines de films, et elle regarde. Donc on filme quelqu'un qui regarde la télévision, un autre film. C'est pour ça que je dis, c'est pas une citation, là. C'est autre chose. Si l'auteur du film me reproche ça, comme c'est Fritz Lang qui me le reprochera plus et me l'aurait jamais rapproché, dire oui, vous lui avez en termes monétaires, c'est de la valeur ajoutée, c'est autre chose. Ça n'est plus du capital, c'est uniquement de la valeur ajoutée.
Il y avait un peu de Varda, d'Agnès Varda dans le précédent.
Mais par exemple, parce que tout à coup, je vois un truc qu'elle a fait chez elle, comme ça, de danseur qui danse, et puis tout à coup, je me dis, mais voilà, c'est Israël-Palestine. Alors je trouve une chanson israélienne, une chanson palestinienne, je rajoute parce que leur problème vient des Allemands aussi, et puis voilà. Et c'est même mieux chez moi que chez elles, si vous voulez, parce que ce n'est que de la valeur ajoutée. Je dis voilà, Israël-Palestine, c'est ça, pourquoi c'est pas ça? Je ne sais pas, les gens, moi je me dis même pas, pourquoi c'est pas ça? Le seul problème, j'avais dit, je m'en souviens plus, c'est-à-dire entre Israéliens et Palestiniens, pour résoudre le problème, leurs frontières et c'est tout, c'est que chacun, ils achètent un million de chiens chez d'un côté, un million de chiens chez l'autre. À ce moment-là, ils se parleront. Pas parce qu'ils ont envie de se parler, parce qu'il y a des chiens. Ici, quand on se promène avec notre chien, on rencontre, et ça devient finalement une petite bande ou un petit truc, régulièrement, dans les mêmes endroits de la forêt, auprès du lac. C'est des dames, quelquefois des messieurs, qui ont chacun un chien avec lequel ils communiquent comme nous. Et quand on est... Si je les voyais au café et qu'on parlait de politique ou de chien, je pourrais pas m'entendre avec eux, ni même leur dire trois mots. Et comme il y a le chien, on parle du chien et on parle d'autre chose et il n'y a pas de dispute.
Et ça crée du lien social, le chien. Alors, donc c'est ça le facteur, ça l'idée.
Ça crée un lien.
Ça crée du lien.
Je ne sais pas s'il est social ou pas, mais si on veut un lien social, il faut du chien. Parce que d'autres, une oie, c'est dangereux, parce que si elle vous aime, elle finit par vous massacrer. Des éléphants, c'est trop lourd. Encore que j'ai vu un couple américain qui avait deux bisons chez lui. Et leur problème, c'était le caca. Parce que c'était des énormes tas qu'il fallait nettoyer trois fois par jour. Mais ils avaient quand même deux bisons chez eux.
Vous m'avez dit que vous revoyez, il vous arrivait de revoir des films ou des bouts de choses comme ça pour vous inspirer. Est-ce qu'il vous arrive de voir, enfin, ou plutôt de revoir des films que vous avez aimés par plaisir, simplement par plaisir de les retrouver?
Rarement, à cause du fait que l'écran et la salle n'est plus là. Rarement à cause de ça et que c'est comme si un moine disait, est-ce que ça vous arrive des fois de vous retrouver Dieu chez vous comme ça, et qu'il dit, ben non, il n'y a plus d'église. Enfin, voilà.
Donc la salle est irremplaçable
pour moi
au cinéma.
C'est un lieu très... Oui, ça a été une invention. C'était différent du café-concert. C'était différent du stade. Il y a quelque chose. Bon, mes antécédents protestantes comme ça me le font plus voir comme d'un côté un peu religieux. Je me souviens que j'avais écrit un texte qui était comme ça, qui parlait de l'équipe des films, sur les films, et que j'avais intitulé « La paroisse morte ». Voilà. J'aime beaucoup les romans de Bernanos, par exemple.
Donc il est indispensable d'être dans une salle pour communier ensemble
on
face
peut pas
à un film.
Et puis aller dans une salle, on ne peut plus, c'est trop loin.
Ça dépend.
Pour moi, c'est trop loin.
Pour vous, c'est trop loin.
Mais à Paris, je sais que des fois je vais à Paris, j'achète Pariscope, je regarde les films, et je ne peux pas parce que je n'habite plus Paris. Donc d'y aller de l'étranger comme ça pour voir un film, je suis dans le texte laudatif de l'auteur, ah c'est ce hoax que j'ai bien aimé, mais donc je vais aller, je peux pas parce qu'il y a pas le, il y a pas ce qu'on avait à l'époque de la nouvelle vague où on y allait à 10h du matin, on sortait à minuit des fois, moi avant, ou des fois Rivette restait quatre fois pour le même film, et moi j'allais en voir quatre autres pendant ce temps. Et après, on revenait à pied.
Ouais.
Donc c'est pas nostalgique. J'ai dû avoir un moment de nostalgie. Là, je le vois comme un fait historique, si vous voulez.
Et donc la consommation de films telle qu'elle se pratique de plus en plus aujourd'hui, sur des écrans et même par vidéo à la demande, c'est autre chose.
Mais même ça, c'est fini. Je connais un magasin vidéo à Genève qui est extrêmement bien achalandé, qui a même des vieux VHS. C'est comme ça, tous les VHS ont disparu, par exemple, à cause des DVD. Et puis aujourd'hui, grâce avec la vidéo à la demande, Netflix ou tous ces trucs, vous voyez que je suis au courant, tous ces trucs comme ça, eh bien, il va disparaître. Et il me dit, depuis 30 ans, je suis là-dedans. Et il parlait même pas de lui, il disait, mais c'est tout ce qu'on a amassé qui va disparaître. Et ce ne sont que des DVD. Déjà, je trouve limite. Je trouve limite de ne devoir voir que des DVD. Mais
heureusement, il y a des gardiens vigilants, notamment en France, pour restaurer les pellicules.
Il ne faut pas les restaurer. Il ne faut pas restaurer la Sixtine. Elle est comme ça. Si elle s'effondre, elle s'effondre. On n'a pas besoin de restaurer et de cosmétiques. C'est le truc, c'est pas bon.
On peut peut-être le
solidifier un peu, mais on peut pas tout garder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut mieux.
Si on vous apprend que vos premiers films tombent en poussière,
je dis tant mieux, poussière, ils retourneront poussière. Poussière je suis, etc. Non.
Ça ne nous fera rien.
Oh non, c'est ridicule.
C'est perdu.
C'est ridicule, c'est de l'art. Il ferait mieux de faire des films plutôt que de fabriquer et de sauver le visage de X ou Y pour qu'on voit. C'est nul. Il ferait mieux de faire d'autres avec cet argent, de faire un film intéressant qui passerait dans une salle ou même dans un DVD s'ils veulent. Mais de produire, il n'y a pas besoin d'engranger. Il n'y a pas besoin d'engranger du capital, un capital culturel. La seule chose intéressante, c'est la valeur ajoutée. Mais
pour avoir de la valeur ajoutée, il faut connaître ce qui s'est fait auparavant.
Non, il faut de la valeur ajoutée séparée du capital.
Mais il faut connaître ce qui s'est fait auparavant. Il faut que les jeunes générations puissent...
Quand on dit valeur ajoutée, ça peut être valeur soustraite. Enfin, il y a beaucoup de mots pour ça.
Jean-Luc Godard, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, il faut que les jeunes générations, ceux qui pourraient avoir envie de faire des films à l'avenir, savent ce que leurs aînés ont pu produire.
Mais absolument pas. Absolument pas. Quand on a eu envie de faire cinéma, c'est pas parce que on savait rien de nos aînés. On a été attirés. On était attiré par quelque chose, et c'est pas parce qu'on va à l'église, sinon ça devient de la religion. Et on n'y a pas échappé aussi. Si vous allez à l'église et que ça vous plaît, c'est pas pour, vous n'allez pas vous transformer en moine français. Ou alors ça devient de la folie ou de la drogue. C'est de la drogue.
Vous n'êtes pas venu au cinéma aussi en admirant quelques grands maîtres?
Mais non, puisqu'on l'a découvert. On l'a découvert. On ne savait pas qu'il y avait des grands maîtres. Je savais un peu qu'il y avait Beethoven, Cézanne, Raphaël, comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait Fritz Lang, Griffith. Je ne savais pas. Un jour, on l'a découvert. On n'a pas cherché à le transmettre à nos enfants. En plus que, heureusement, moi je n'ai pas. Je suis délivré de ce problème.
Mais aujourd'hui, ce serait dommage de perdre les œuvres de Fritz Lang, de Griffith ou de Hitchcock, non?
Vu ce qu'on en fait, vu ce qui se fait, vu ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Tchétchénie, vu ce qui s'est passé sous Hitler ou comme ça, non.
On fait table rase.
On fait pas table rase, elle se fait elle-même. Si vous voulez entretenir un peu sans trop le changer, mais vous n'avez pas, vous n'allez pas transformer les pyramides d'Égypte en tour Montparnasse. Ben voilà.
Donc on laisse.
Alors on peut l'entretenir, on peut étudier son histoire. Et il y a des livres ou des enquêtes aussi qui sont faites pour ça. Aux éditions Capricci, ils publient des bons livres sur des aspects un peu inconnu, j'en ai un là, je ne l'ai pas lu, je l'ai tout de suite mis de côté parce que c'était trop. Mais elle. Non, non. Pas trop, un peu, mais pas trop. à partir du moment où vous n'allez pas essayer de sauver à chaque saison les feuilles qui deviennent automnales, en disant ah, « si, laissez cette bonne nature faire avec votre aide, peut-être éliminer certains moustiques ou trucs, ou comme ça, mais enfin, non, c'est un peu bête, c'est de la culture européenne occidentale qui est pas bien.
À la télévision, vous regardez toujours du football?
Non.
Plus? C'est
non,
fini?
Non, j'ai arrêté.
Ça vous a passé?
J'ai arrêté le tennis aussi parce que j'en faisais plus. Donc ça m'ennuyait de le regarder.
Vous jouiez au tennis,
oui.
Et vous avez arrêté,
ouais,
de jouer.
Oui.
Et vous regardiez les tournois et vous, oui, ne les voyez,
non,
plus.
Un petit peu. Mais d'un point de vue historique, hein, l'histoire.
Et le football, ça vous a passé aussi?
Ça m'a passé aussi.
Séances de pénalty.
Oui. Il faudrait être sûr de tomber dessus.
Ah. Bon.
Qui ne diffuse que ça.
Oh. Uniquement les tirs au but ou les pénaltys.
Oui, qu'il y a au moins une chaîne qui diffuse que les pénaltys. Et s'il n'y a pas de pénalty, ben, elle ne diffuse pas.
Pourquoi ça vous intéresse tant que ça, les pénaltys? Parce que c'est l'instant dramatique, c'est le... Qu'est-ce qui...
Parce que, jeune, j'ai joué dans une équipe comme gardien de but. Donc, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, c'est un peu simpliste à dire aussi, mais c'est comme ça. Et puis que là, on n'a pas besoin de voir tout le match. Et puis surtout que je trouve que c'est mal filmé. Sinon, je regarderais. C'est très, très mal filmé. Est-ce que ça peut être bien filmé? C'est différent. Est-ce que le basket peut être filmé la même chose que le football, ce qui est à l'heure actuelle? Le tennis, c'est absolument effroyable, c'est champ contre champ, qui n'est absolument pas là, qui n'est même pas d'essayer de refaire la réalité d'un spectateur, quelque part, de côté ou derrière. Et ils disent tous, ce qui est important, c'est le mental. Hein. Le mental, ils sont très forts, mais il y a le mental qui craque, ou au contraire, un truc comme ça. Mais on devait faire un film, Jean-Paul le sait, à Roland-Garros. Ça a chopé.
Ah bon?
Parce que ça a chopé, parce que même avec une petite caméra, ils ne voulaient pas que je sois sur le terrain.
Ah oui.
Même avec une caméra grande comme ça, une boule à laquelle on a.
Comme un stylo, quoi. Enfin, un gros stylo.
Oui, non, même pas, mettre ces petites caméras comme laquelle on a tourné Adieu au langage. Des petites caméras dites d'amateurs ou comme ça. Bien qu'elles soient très professionnelles dans leur. Oui, dans le fait, puisqu'elles font de la HD, de ceci et de trucs comme ça. Non, mais c'était. Aussi parce que ce que je voulais filmer, c'est partir d'un type qui viendrait, un joueur de tennis, qui viendrait faire les éliminatoires. Donc déjà, filmer son trajet. Et puis ensuite, il arrive aux éliminatoires. Bon, donc il a le droit d'aller dans le tournoi. Il fait son premier match. Mais chaque fois, on le voit. On voit ensuite le match d'après et on le quitte lui. Donc chaque fois, on voit tout le tournoi jusqu'à la finale. Mais chaque fois avec un seul joueur. Et on voit l'autre après. Alors des fois, on voit celui qui sert ou celui qui reçoit, suivant les cas comme ça. Et puis ça a été refusé. On fait des trucs. Le football, je ne sais pas si ça peut être bien filmé en direct. En recomposé, oui. Ce qu'il faudrait, c'est le filmer en direct, avec beaucoup, beaucoup de choses, et ensuite, deux ou trois mois après, remontrer le film. Mais accepter de montrer la Coupe du Monde uniquement à ce moment-là.
Ah.
Voilà. Alors la Coupe du Monde, au Brésil, vous les laissez voir, mais pas de caméra, pas de télévision, et comme ça. Mais trois mois après, vous montrez le film. C'est comme ça que étaient filmées les Olympiades autrefois. Plus aujourd'hui.
Les Olympiades d'autrefois.
Les Jeux Olympiques.
Oui. les Jeux Olympiques. Oui, ils étaient filmés, vous voulez dire, avec des caméras cinéastes, pas la télévision.
Et qui faisait un film, c'était un metteur en scène plus ou moins célèbre et comme ça, et puis qui le faisait, qui n'était vu après. Si les gens se souviennent du film de Léni Riefenstahl, c'est parce qu'il a été vu un an après. C'est pas pendant. Ben voilà, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on veut changer ? Ça les regarde et ils ont trop de choses à faire. Ils peuvent pas. Bruxelles peut pas tout faire. Obama peut pas tout faire. Peut-être le mardi, d'après ce que j'ai lu dans Le Monde, il peut voir la liste des gens qu'il faut exécuter, et il coche un ou deux noms sur la liste. Obama, il fait ça. Ils appellent ça le mardi de la terreur à la Maison Blanche. C'était dans Le Monde, hein. C'est pas moi qui invente ça.
Je vous crois.
Je serais pas capable.
Vous avez cité un certain nombre de vos camarades de début des années 60, Jean-Luc Godard, camarade de la Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Romer.
C'était Truffaut et Rivette.
Et Rivette. Rivette
plus quelques compagnons, quelques amis, des fois plus jeunes, et des trucs comme ça.
Mis à part Rivette, ils ne sont plus là. Vous êtes le dernier.
Et Chabrol. Non, il y a toujours... Agnès Varda existe toujours. Elle faisait partie d'un tout autre groupe qu'on appelait... Le groupe Rive Gauche, simplement parce que nous, Rive Droite, les Cahiers du Cinéma étaient situés à l'époque en haut des Champs-Élysées. Donc voilà. Donc on traversait chaque jour, enfin moi en tout cas, chaque jour à pied pour aller jusqu'en haut des Champs-Élysées. Et puis voilà. Mais on était très bons. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres jeunes critiques ou comme ça, dont certains, je me souviens encore avec affection quand je revois leur nom, ou comme ça, qui existent toujours. Douchet, par exemple, Jean Douchet, ou comme ça.
Mais de ces cinéastes emblématiques de cette époque, vous êtes, qui tournent encore, vous êtes l'un des... Vous êtes l'un des tout derniers survivants. Ça, enfin, j'y pensais en venant et en revoyant l'hommage que vous aviez fait pour Romer,
oui.
Au moment de la mort de Romer.
Oui.
C'est quelque chose quand même. C'est une époque qui
disparaît. C'était, oui, mais c'était tout le quartier latin de l'époque et tout chose. Dupont avait deux cafés. Un au début de la rue Soufflot et un au début de la rue des Écoles. Ou comme ça. Non, c'était... Ben oui, mais écoutez, ça existe à tout le monde. Quand on dit Romer, moi j'ai connu un petit peu tout à fait différent de ce qu'on peut dire dans les livres. Ou comme ça, c'était ça que j'aimais à rappeler.
Mais en même temps, c'était des gens, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'était des gens qui, avec qui vous vous êtes disputé, souvent. Les disputes sont restées célèbres avec Truffaut dans vos correspondances. Mais c'est des gens qui...
C'est la seule qui a été mise en exergue par l'autre.
Mais il y a eu des disputes avec tous.
Non.
Non ?
Non, quasiment pas. On se disputait sur les films, mais pas entre nous. Et en fait, on ne connaissait rien, chacun l'un de l'autre. On ne connaissait pas leur femme, chacun ne connaissait pas la petite amie de l'autre, s'il en avait une. Non, on était... C'était des moines, on était tous les moines qui ne savaient pas si l'autre, combien de fois par semaine, l'autre forniquait, si vous voulez. C'était des choses comme ça.
Vous avez d'abord parlé des films des autres, mais ensuite, vous... Quand vous êtes passé de l'autre côté en réalisant vos propres films, il y avait parfois des discussions sur les films que vous faisiez. Et donc, il y avait des gens, des camarades qui pouvaient vous dire ce qu'ils pensaient de vos films.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est séparés.
Ah oui.
C'est à ce moment-là, très vite. Moi, j'ai mis longtemps à oser dire à François que je n'aimais pas, que je trouvais absolument nuls ces films.
Ils étaient vraiment nuls ?
à mon avis. Mais Rivette, un peu moins longtemps, parce qu'il a tourné aussi un film avec Anna Karina et tout ça, et que j'aime, je respectais, même si j'aimais pas tout, il y en a ou deux que j'aime beaucoup. Romer, j'appréciais pas du tout ce qu'il commence à faire, mais pendant longtemps à Paris, il y a une vingtaine ou une dizaine d'années, on habitait le même immeuble, donc on se croisait de temps en temps, mais on se disait rien, non, on était nos propres fantômes, je sais pas comment dire, mais c'est pas, et qu'il y avait une grande amitié, mais c'était uniquement les films. Je me souviens qu'une fois, Rivette m'avait dit d'une femme est une femme, ah, c'est du Picasso, et j'étais très fier. Et c'est un film que je déteste et que je trouve nul.
C'est drôle parce que vous savez qu'il y a un cinéaste d'aujourd'hui qui s'en est inspiré pour. C'est Christophe Honoré pour. Les chansons d'amour. Il a tourné précisément dans les rues, dans le quartier. D'une femme est une femme, il s'est inspiré d'Anna Karina pour l'un de ses personnages féminins, et il a pensé au couple
Briali-Belmondo,
couple Briali-Belmondo pour composer son trio amoureux dans les chansons d'amour. Ça vous semble ridicule ?
Oh, pauvre garçon, écoute, il fait ce qu'il veut.
Très bien. La mort, vous y pensez, Jean-Luc Godard ?
Non, la disparition. Non, je pense à la souffrance. Parce que je me sens souvent pas plus très bien avec l'âge, mais je pense à la souffrance. Le reste, non.
Donc votre. Vous voulez d'abord éviter la souffrance ?
Ben moi, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'évite la souffrance avec tout ce qui se passe. Dans le monde et la souffrance de tous ces gens. Donc il faut. C'est tout à fait normal que ça m'arrive aussi.
Mais on vous sent assez serein, assez détaché à l'égard de cela.
Ouais, parce que j'ai pas trop mal au bras, juste en ce moment.
Donc vous n'avez pas peur?
Non. Non, puis on peut y penser. Non, on peut y penser, il faut que ça. Je sais pas. Et puis j'ai souvent pensé à la fin de Paul Lafargue et de Laura Marx. La petite fille de Marx, ou je sais pas quoi. Paul Lafargue était un intellectuel du temps qui avait écrit Éloge de la paresse, du temps de l'affaire Dreyfus, des choses comme ça, et qui, à l'âge de 65 ans, ils ont décidé d'arrêter, et voilà, de partir. Donc ça, je pense quelquefois, j'ai toujours un livre qui avait été interdit en France à l'époque, qui s'appelait...
Suicide mode d'emploi,
oui.
Vous l'avez toujours ?
Oui. Il y a longtemps que je n'ai pas feuilleté.
À portée de main.
Oui.
Merci Jean-Luc Godard.
Merci à vous.